100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Le virage conservateur de la Pologne va-t-il se poursuivre? C'est tout l'enjeu de la présidentielle dans ce pays de 38 millions d'habitants. Le premier tour se tiendra ce dimanche et en attendant, malgré le Covid, la campagne bat son plein. Entre le président sortant, Andrzej Duda, et le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski, le duel s'annonce serré. C'est dans les campagnes et les petites villes que tout va se jouer, car elles représentent 60% de l'électorat. Et pour le maire de la capitale, pas facile de grignoter des voix dans ces terres acquises au parti au pouvoir. Thomas Giraudeau s'est rendu dans une petite ville au sud de Varsovie.
À Grójec, petite commune de 25 000 habitants, entourée de vergers et de forêts, on voit des affiches de campagne un peu partout. Le visage du président Andrzej Duda côtoie celui de son principal adversaire, Rafał Trzaskowski, sur les façades et les vitrines des magasins. Comme dans la librairie de Krzysztof Lichoszczyk, la boutique est devenue un point relais pour récupérer des tracts à l'effigie de Trzaskowski.
Je ne suis pas un militant de son parti, juste un simple citoyen. Mais je crois en ses chances, et c'est pourquoi je m'implique dans sa campagne. Bien sûr, ce sera très difficile. Vous voyez ici, dans le comté de Grójec, les électeurs votent en majorité pour le PiS et pour Duda. Pourquoi ? Surtout pour les allocations sociales qu'ils ont versées. Le parti est considéré ici comme un sauveur. Donc c'est très difficile de lutter contre cela. Notre seul moyen de convaincre, c'est d'expliquer que cet argent qui leur est versé ne sort pas de nulle part. Il est emprunté et les générations futures devront rembourser cette dette.
L'argument massue du PiS et de l'actuel président, c'est 500 zloty, environ 115 euros, versés chaque mois et pour chaque enfant à toutes les familles polonaises. Promise durant les campagnes électorales victorieuses de 2015, cette allocation universelle inédite en Pologne a réduit la pauvreté et attiré les électeurs aux revenus modestes. Sur la place du marché de Grójec, Agnieszka, une jeune mère de famille célibataire, mange un hamburger avec sa fille.
Le parti et Duda ont fait beaucoup de choses pour les familles monoparentales. Ils nous ont donné de l'argent. La vie est plus facile avec toutes ces allocations. Je peux acheter des fournitures scolaires, faire des courses. J'ai même pu offrir un ordinateur à ma fille. Et puis maintenant, il y a l'allocation exceptionnelle pour les vacances de 500 zloty par enfant. C'est un vrai plus. Grâce à cela, dans un mois, on part à la mer. Et je connais beaucoup d'autres familles pauvres qui ont aussi vu leur niveau de vie augmenter.
Quand on évoque Rafał Trzaskowski, le candidat de l'opposition, le visage d'Agnieszka se ferme. Elle s'inquiète de perdre ses aides s'il est élu président. Le maire de Varsovie a pourtant promis, comme les autres candidats, de ne pas toucher à cette allocation familiale.
Son parti, la plateforme civique, ne s'occupe que de ses propres intérêts. Donc si Trzaskowski gagne, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Alors que quand le PiS dit quelque chose, il le réalise. Pas toutes les promesses, bien sûr, mais les plus importantes, oui.
Cette idée que le candidat Trzaskowski n'agit pas pour les Polonais est relayée en boucle à la télévision publique, véritable instrument de propagande du pouvoir actuel. Le maire de Varsovie y est dépeint comme un homme fréquentant les puissants de ce monde et son parti accusé, quand il était au pouvoir, d'avoir mené ses politiques en faveur des plus riches. Paweł, un sympathique du PiS, en est convaincu.
Rafał Trzaskowski est le prototype même des politiciens de l'élite, ceux qui ont de l'argent, qui vivent dans les grandes villes, ceux qui veulent maintenir leurs intérêts de classe et qui agissent pour ne pas perdre le pouvoir, l'influence qu'ils détiennent. Rien ne le différencie de ses prédécesseurs.
Paweł fait référence au précédent président polonais et à l'ex-premier ministre Donald Tusk, tous deux proches de Rafał Trzaskowski. Lui parle cinq langues, a été secrétaire d'État aux affaires européennes sous un précédent gouvernement libéral, avant de devenir maire de Varsovie, la capitale plus ouverte sur le monde que le reste du pays. En face, le président Andrzej Duda veut incarner la Pologne périphérique, celle des campagnes et des petites villes. C'est le cœur de l'électorat du PiS, là où le parti a obtenu, comme à Grójec, plus de 50% des voix aux législatives d'octobre dernier. Paweł.
Je soutiens plutôt le PiS parce que je suis d'accord avec leur programme, les traditions, les valeurs qu'ils défendent, à savoir les valeurs catholiques. Elles sont importantes pour moi. J'ai grandi dans une famille croyante. Et puis, les valeurs nationales me parlent parce que je sais à quel point les Polonais ont souffert par le passé pour obtenir l'indépendance de notre pays. C'est pour ça que je n'aime pas toutes ces tentatives d'ingérence dans nos affaires internes.
La Pologne a été occupée à de multiples reprises dans son histoire et le pays n'est réellement indépendant et démocratique que depuis 30 ans. Alors Andrzej Duda et le PiS flattent la corde patriotique, cette fierté nationale et ce désir de souveraineté, en dénonçant par exemple une Europe qui se mêlerait de ce qui ne la regarde pas, sur les atteintes à l'état de droit ou la campagne de haine contre les LGBT lancée par le pouvoir. Ce thème des LGBT a aussi pour but d'affaiblir le maire de Varsovie, l'opposant Trzaskowski. Jarek est un ouvrier d'une cinquantaine d'années.
Il a signé l'an dernier cette charte LGBT à Varsovie. Moi je suis tolérant mais je suis conservateur. Alors ces marches des fiertés, tout ça, ça ne me plaît pas. Pour moi, Rafał Trzaskowski n'est pas un bon maire de Varsovie. Alors comment peut-il diriger un pays tout entier? À l'inverse, Andrzej Duda est le président de tous les Polonais. C'est le premier président qui est allé à la rencontre de tout le monde partout dans notre pays.
Jarek souligne qu'Andrzej Duda est le seul à s'être rendu dans chacun des 380 comtés du pays au cours de son mandat. Cette Pologne des petites villes et des campagnes qui a pour la première fois le sentiment d'être considérée par les politiques. C'est là que Rafał Trzaskowski doit engranger des voix pour l'emporter et la tâche s'annonce immensément difficile.
Élection toujours, mais en Serbie cette fois, cela ne s'était encore jamais vu. L'opposition a disparu du Parlement après des législatives totalement phagocytées par le pouvoir dimanche dernier. Tous les pouvoirs sont désormais entre les mains d'Aleksandar Vučić et de son parti, Simon Rico.
Dès l'annonce des résultats, Aleksandar Vučić s'est présenté devant les médias le pouce levé en affichant son plus beau sourire. « Nous avons gagné partout », s'est réjoui l'homme fort de Belgrade, qualifiant ce triomphe de victoire historique. En effet, son parti a remporté 191 des 250 mandats de députés, très loin devant son partenaire socialiste, la formation de l'ancien dictateur Slobodan Milošević. Cette majorité contrôle totalement le Parlement avec près de 90% des sièges, le reste échouant aux minorités nationales et à une petite formation menée par un ancien joueur de waterpolo.
Comment ça s'explique, Simon ?
Eh bien, l'opposition avait décidé très majoritairement de boycotter ce scrutin afin de dénoncer un jeu électoral truqué qui ne respecte même plus les principes démocratiques de base. Pas d'accès aux médias pour l'opposition, pas de contrôle des listes électorales, omniprésence d'Aleksandar Vučić, les arguments sont vite listés pour ses représentants qui estiment que ce scrutin avait pour seul objectif, je cite, « de renforcer la dictature en train de se mettre en place ». Avant que l'état d'urgence ne soit décrété à la mi-mars pour contrer le Covid-19, cela faisait près de 18 mois que des manifestations hebdomadaires avaient lieu pour dénoncer la dérive autoritaire en cours en Serbie. Grâce à de multiples pressions pour inciter au vote, le régime a néanmoins réussi à s'assurer une participation suffisante, 50%, et il aurait même aidé plusieurs listes à recueillir les 10 000 signatures nécessaires à leur participation pour se tailler une opposition sur mesure.
Mais pourquoi avoir organisé ces élections maintenant, en pleine épidémie de coronavirus ?
C'est une bonne question en effet, alors que les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse ces dernières semaines en Serbie, faisant craindre le début d'une deuxième vague que ce vote risque d'avoir en plus amplifié. Les autorités n'ont d'ailleurs pas hésité à minimiser l'ampleur de ces contaminations, comme l'a révélé lundi le site d'investigation Burn, comparant les chiffres communiqués par les autorités à ceux enregistrés officiellement. Ce scrutin, prévu pour la fin avril initialement, avait déjà été reporté et Aleksandar Vučić ne voulait pas avoir à encore le repousser alors que démarrent dès le week-end prochain des négociations cruciales avec le Kosovo à la Maison-Blanche. En cas d'accord, l'homme fort de Belgrade aura les coudées franches pour le faire valider par le Parlement et modifier, si besoin, la Constitution.
Merci Simon Rico. Biélorussie, ce petit voisin de la Pologne et de la Russie, l'élection présidentielle se tiendra dans un peu plus d'un mois, le 9 août. Le président Alexandre Loukachenko y brigue son sixième mandat, mais l'homme fort de Minsk est confronté à une défiance populaire d'une ampleur inédite. Aucune élection n'a été jugée libre ou équitable par les observateurs européens depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Et cette fois encore, les principaux candidats dissidents ont été évincés de la compétition. Les explications d'Étienne Bouch.
Ces dernières semaines, les Biélorusses se sont massivement mobilisés pour parrainer des candidatures concurrentes, avec pour principale motivation de faire vaciller un système politique verrouillé. Officiellement, les candidats avaient jusqu'à vendredi dernier pour déposer à la commission électorale un minimum de 100 000 signatures. Mais parmi eux, trois concurrents se sont retrouvés dans le collimateur de la justice. Des arrestations qui les placent opportunément sur le banc de touche. Nicolas Statkevitch, une figure bien connue de l'opposition, a été condamné pour une manifestation non autorisée, ce qui l'empêche de concourir à l'élection. Plus jeune, Sergueï Tikhanovski s'est imposé comme le nouveau poil à gratter du système Loukachenko. Sur sa chaîne YouTube, il fait remonter tous les maux de la société biélorusse. Tikhanovski a popularisé un slogan provocateur « Stop aux cafards, suivez son regard ». Inculpé pour trouble à l'ordre public, il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Il a chargé son épouse Svetlana de se présenter à sa place. Qu'elle puisse ou non être candidate, le président Loukachenko a tranché « Notre société n'est pas prête à voter pour une femme ». Le troisième candidat arrêté est un ancien banquier, figure du mécénat culturel. Probablement le plus dangereux puisque Victor Babariko n'est pas un représentant de l'opposition traditionnelle. Il a été directeur de la Belle Gazprom Bank, une filiale du groupe russe Gazprom. Selon les enquêteurs, il serait impliqué dans une affaire de fraude et de blanchiment. La mise à l'écart de ces candidats dissidents n'a fait qu'accentuer l'exaspération des Biélorusses. Mais leurs actions de protestation sont peu susceptibles d'être prises en considération. Lors des précédents scrutins, elles ont systématiquement été ignorées par le président Loukachenko. Un président qui agite la menace d'un nouveau Maïdan, référence à la révolution ukrainienne de 2014, et qui se présente comme le garant de la stabilité nationale.
Direction la France à présent, où doit se tenir dimanche le deuxième tour des municipales après avoir été reporté du fait de l'épidémie de Covid-19. Et à la veille de ce second tour, les Verts paraissent en position favorable dans plusieurs grandes villes de France. Pourquoi ? Est-ce en lien avec la pandémie ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Léa-Lisa.
Dans quelle mesure le Covid-19 est-il lié à ce besoin de faire plus pour protéger l'environnement ?
Premièrement, à ceux qui en doutaient encore, la mise en sommeil de l'activité économique et sociale a démontré la réalité de l'impact des comportements humains sur l'environnement. Selon les évaluations du cabinet international Sia Partners, cité par le quotidien Les Échos, le ralentissement de l'activité en Europe en mars et avril a fait chuter de 58% les émissions quotidiennes de CO2, ce qui devrait se traduire par une diminution d'au moins 5% des émissions totales en 2020. Une contraction essentiellement due à la chute de la production d'énergie et à la forte baisse des transports publics ou individuels. Deuxièmement, de très nombreux experts expliquent que la multiplication ces dernières années des pandémies est une conséquence des atteintes à l'équilibre environnemental et à la biodiversité que constituent la déforestation, l'élevage intensif, l'urbanisation et l'intensification des échanges. Tous ces facteurs favorisent la propagation des virus et la diminution des défenses immunitaires. Enfin, de très nombreux confinés européens ont pris conscience des bienfaits d'une vie plus naturelle, plus calme et moins esclaves d'un mode de consommation débridé.
C'est ça l'explication de cet engouement des Français vis-à-vis du Parti des Verts pour ces municipales ?
Il est vrai que dans plusieurs métropoles françaises, les listes conduites par Europe Écologie Les Verts sont en bonne position à la veille du second tour. Sans parler de Grenoble, acquise aux écologistes du maire sortant, les Verts qui conduisent un rassemblement de la gauche sont en position de gagner à Marseille, tandis qu'ils peuvent encore espérer l'emporter à Bordeaux, Lyon, voire Lille. Cela dit, leur percée était déjà acquise au premier tour et la période de confinement n'a pas eu d'impact majeur sur leur cote électorale. Et surtout, rien ne permet de dire que le parti EELV a particulièrement le vent en poupe au plan national.
Comment ça ?
Malgré le fait que la France soit le seul pays de l'Union à ne pas publier de sondage régulier sur l'audience des partis politiques, les baromètres Ipsos sur la popularité des responsables politiques ne font état d'aucun frémissement de l'opinion en faveur du leader d'EELV, Yannick Jadot. Ce dernier a bien vu les avis favorables grimper de 15 à 25% entre janvier et mars, mais il est retombé à 21% au mois de mai et les avis défavorables qu'il inspire ont tendance à augmenter, 39% en mai. Même le très populaire Nicolas Hulot continue de surfer sur la crête des 50% d'avis favorables sans que l'on puisse noter la moindre poussée par rapport à l'avant-Covid.
Et c'est la même chose chez nos voisins ?
Absolument. Dans les deux pays d'Europe continentale les plus touchés par le Covid, l'Italie et l'Espagne, il n'y a aucune émergence des mouvements écologistes qui restent parfaitement confidentiels. En Scandinavie, les Verts voient même leurs intentions de vote s'effriter par rapport à la fin de l'année dernière, notamment en Finlande où leur poids est le plus significatif et où ils passent de 14 à 12%. Pour ce qui est des Pays-Bas, les Greens se situent autour de 14% depuis plus de 9 mois. Quant à la Belgique, elle ne voit ni les écolos wallons à 13%, ni les Greens flamands à 9% progresser le moins du monde.
Qu'en est-il des grands défenseurs de l'écologie comme l'Allemagne ou l'Autriche ?
En Autriche, les Grünen sont bien passés de 16 à 18% des intentions de vote de décembre à mars, mais ils sont revenus actuellement à 16%. Quant aux Verts allemands, qui culminaient à 26% il y a un an, ils ont reflué aujourd'hui jusqu'à 17%. En fait, presque tous les points acquis par les chrétiens démocrates de la chancelière Angela Merkel durant la crise du Covid ont été pris au Parti des Verts.
Comment ça s'explique ?
Le fait que les Verts n'aient nulle part en Europe profité de la crise du Covid semble traduire deux réalités. D'une part, cela montre que toute l'écologie environnementale, celle de la lutte contre la pollution, les déchets, les gaspillages, est devenue une telle nécessité qu'elle a été intégrée par la plupart des grands partis de gouvernement, et cela de façon crédible. En revanche, la spécificité de la plupart des partis verts, l'écologie politique, c'est-à-dire le basculement d'un système productiviste basé sur une consommation toujours croissante vers de nouveaux modes de vie beaucoup plus frugaux, a du mal à convaincre. Au sortir du confinement, il semble que les Européens ne rêvent que de retrouver leurs distractions et fêtes habituelles et de partir en vacances le plus loin possible.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt.
À bientôt Léa Lisa.
Et si on visitait les villes en fonction des sensations, ou plutôt des sentiments qu'on a envie d'éprouver ? Sérénité, bonheur, amour ou peur ? À Istanbul, c'est le pari d'une application mobile imaginée par des spécialistes de la santé mentale. Depuis 3 ans, ils sondent les émotions des Turcs selon l'endroit de la capitale où ils se trouvent. Et cela donne une carte émotionnelle d'Istanbul que nous décrit Anne Andlauer.
Un coucher de soleil orange au milieu du Bosphore sur un îlot paisible balayé par les flots où se dresse une tour baroque de 18 mètres de haut. Cette tour de Léandre, Kızkulesi, soit tour de la fille en turc, serait l'endroit le plus romantique d'Istanbul. C'est la conclusion de l'Association pour la santé mentale, une association turque de spécialistes du domaine, qui livre une carte émotionnelle de la plus grande ville turque. Depuis 3 ans, l'association développe une application mobile, Checkfeel, testée par 10 000 utilisateurs à Istanbul. Lorsqu'ils se rendent quelque part, ces derniers indiquent à l'application, qui fonctionne sur le principe de la géolocalisation, les émotions qui les traversent à cet instant précis. Le plus grand cimetière d'Istanbul est, sans surprise, l'endroit où l'on se sent le plus triste, et l'aéroport, celui où on est le plus excité. La mosquée d'Eyüp Sultan, l'un des hauts lieux de pèlerinage musulman en Turquie, a été désignée comme l'endroit le plus serein, et les stades de football comme des lieux tantôt de fierté, tantôt de déception. La liste est longue. L'application a déjà collecté les émotions de ses utilisateurs dans des dizaines de milliers d'endroits. Elle leur propose aussi de faire l'exercice inverse. Confier d'abord ce qu'ils ressentent, du chagrin par exemple, pour se voir proposer soit des endroits où une majorité de personnes déclarent ressentir la même chose et ainsi partager leur peine avec d'autres, soit des endroits qui pourraient peut-être changer leur état émotif, les rendre plus gais en l'occurrence. En élargissant le système à toute la Turquie puis à d'autres pays, l'association pour la santé mentale ambitionne de créer d'autres cartes émotionnelles, mais aussi de développer le concept de tourisme émotionnel, c'est-à-dire choisir sa destination de vacances en fonction de ce que l'on ressent ou de ce que l'on souhaite ressentir.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter, nous retrouver partout et à toute heure, rendez-vous sur notre site rfi.fr ou via notre podcast Accent d'Europe sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.